REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Bonjour et bienvenue sur Radio Imo et Radio Territoria en direct de la REF 2021. Je suis avec Michel Detaille, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous avoir sur notre plateau.
Merci de m'avoir invitée.
Mais avec plaisir. Alors vous êtes présidente de la FEDIL, c'est la Fédération des industriels luxembourgeois depuis 2019.
Tout à fait.
Alors vous êtes belge d'origine. Ancienne bourgmestre de Vaux-sur-Sûre. Alors, vous êtes arrivée au Luxembourg, là, vous en parliez justement, on a assisté tout à l'heure à la conférence lors du débat sur la francophonie économique, justement. Alors, on parle du Luxembourg. Le Luxembourg, aujourd'hui, c'est combien de personnes ?
Alors, c'est un peu plus de 600 000 personnes.
Ouais. Et combien de personnes donc, qui travaillent et qui viennent travailler au Luxembourg ? Vous avez dit des chiffres qui m'ont étonnée tout à l'heure.
Tout à fait. Alors, il y a 210 000 personnes qui viennent travailler tous les jours au Luxembourg et qui sont des résidents de France, d'Allemagne ou de Belgique. Et dans les 210 000, il y a les trois quarts qui viennent de Belgique et de France. Voilà, en fait, le Luxembourg est une place financière qui a explosé avec énormément d'emplois très qualifiés. Et puis, à côté de ça, il y a une industrie qui est plus classique et plus traditionnelle. Et il y a besoin d'énormément de main-d'œuvre dans un pays qui compte finalement peu d'habitants.
Peu d'habitants. La moyenne d'âge au Luxembourg, c'est quoi ? C'est...
Joker.
Donc beaucoup de frontaliers qui viennent travailler. Les Luxembourgeois, du coup, le prennent bien, ça
ou... Alors, quand on dit les Luxembourgeois, il y a les résidents, mais il faut savoir qu'en plus des frontaliers, dans les résidents, il y a pas mal de nationalités étrangères. La première à nationalité représentée, ce sont les Portugais.
Oui, c'est ce que vous disiez
voilà,
tout à l'heure.
Tout à fait. Et puis, il y a aussi pas mal d'Italiens, il y a pas mal de Français aussi, quelques Belges et peu d'Allemands. Donc, la population résidente de nationalité luxembourgeoise est une population un peu plus âgée que même si je n'ai pas les chiffres en tête, que l'ensemble des résidents. Et je pense qu'ils sont contents de ce qui est devenu leur pays. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une politique bien menée, c'est le fruit d'un travail de plusieurs décennies. Parce qu'il faut savoir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, le Luxembourg était un pays très très pauvre, oui. Où les gens avaient faim. Pas tout le monde, bien entendu, mais la famine était là. Et donc, voilà, c'est la preuve qu'on peut, quand on a une stratégie et quand derrière la stratégie, on met en œuvre les actions qu'on veut développer, qu'on arrive à créer vraiment de la valeur.
Oui. Et alors, aujourd'hui, c'est un pays riche. C'est un pays dans lequel les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. C'est pour ça aussi que beaucoup de Français partent, vivent en France et partent travailler tous les matins au Luxembourg. Pourquoi les salaires sont si hauts ?
Alors, ce qui est surtout plus haut, c'est le salaire que l'employé reçoit. Parce qu'en fait, il y a une sécurité sociale qui est, depuis le Covid, très légèrement déficitaire, mais qui aussi non est en équilibre. Et c'est principalement le fait que les cotisations de sécurité sociale soient moins élevées, nettement moins élevées, à la fois pour le patron et pour le salarié, qui fait que le salaire que reçoit l'employé est nettement plus élevé. Sinon, la fiscalité est parfois plus intéressante en France pour un salarié qu'au Luxembourg.
Est-ce qu'il y a du coup, en sens inverse, des Luxembourgeois qui ont des biens en France ou qui...
Alors, il y a énormément de Luxembourgeois qui ont des maisons secondaires en France parce que les Luxembourgeois aiment beaucoup la France. Il y a énormément d'étudiants luxembourgeois qui viennent étudier en France. D'abord parce que jusqu'il y a 20 ans, il n'y avait pas d'université au Luxembourg. Ouais. Ensuite, parce que dans certaines matières, comme le droit, par exemple, le droit qui s'applique au Luxembourg, c'est le code Napoléon, en gros. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire ses études en Allemagne si on veut devenir juriste au Luxembourg. Et donc, il y a beaucoup de jeunes luxembourgeois qui viennent aussi dans les écoles de droit, mais aussi dans les écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs et qui font la médecine aussi ici en France, parce que la France exerce, comme sur beaucoup de pays d'ailleurs, un intérêt, un peu une fascination pour les habitants des pays voisins.
On parlait des salaires. Au niveau de l'immobilier, les prix sont assez hauts aussi.
Alors, les prix sont assez hauts. Si on compare avec Paris, c'est à peu près la même chose. Mais les prix sont très hauts au Luxembourg par rapport aux régions frontalières voisines, par rapport à la Lorraine, par rapport à des villes comme Thionville, voire comme Metz, ou des régions d'Allemagne ou de France qui sont à la frontière. Donc, les prix sont très élevés dans le contexte luxembourgeois, mais les prix sont ceux d'une capitale comme Paris, voire même un peu inférieure à Londres.
Et alors, tout à l'heure, on papotait un peu hors antenne. Vous me disiez que les propriétaires là-bas, il n'y a pas beaucoup de transactions au final, c'est ça ?
Voilà, tout à fait, parce que comme les prix de l'immobilier s'envolent d'année en année, les gens qui gagnent bien leur vie, qui n'ont pas besoin de liquidité, préfèrent garder leur propriété terrienne en disant « De toute façon, c'est un excellent placement, c'est mieux que ce que ça me rapporte à la banque. Je vais encore attendre avant de réaliser et d'investir ou de vendre ou d'investir moi-même dans la construction d'immeubles de rapport. »
Et donc la population du Luxembourg, 800 000 dans quelques années, c'est ça ?
C'est ce qu'on dit, oui. Alors c'est un vrai défi parce qu'évidemment, non seulement il faut les loger, mais
il va falloir construire du coup.
Voilà, tout à fait. Il faut construire, donc c'est en cours, mais ça va lentement. Puis il faut construire des écoles, il faut construire des routes, même si on dit qu'on va moins rouler en voiture. Quand même, il faut des infrastructures de communication, il faut des transports en commun. Mais le pays s'y met et ça avance bien.
Les routes, justement, là, vous venez d'en parler. Est-ce que vous êtes aussi au Luxembourg très axé vélo, comme ça devient le cas à Paris, par exemple, où,
Oui, il y a aussi des Vélib qui s'appellent des vélos chez nous, avec un H à la fin.
D'accord.
Il y a aussi des pistes cyclables qui se font dans la ville. Et puis, il y a quelque chose qui surprend tout le monde, c'est que depuis deux ans, les transports en commun sont gratuits. Tous les transports en commun dans l'ensemble du pays sont gratuits.
Pour tout le monde.
Voilà, pour tout le monde. Et vous venez passer un week-end.
C'est génial.
Voilà, oui, vraiment. D'abord, ça vous évite de chercher la monnaie. Et puis, pour les gens, les jeunes qui se déplacent en transport en commun, c'est quand même une belle économie.
C'est très, très, très belle initiative. Vous parliez tout à l'heure de la crise sanitaire. À la Fédil, comment ça s'est passé ?
Alors,
vous avez pris vos fonctions donc juste avant, en avril 2019,
un an avant quasiment.
Ouais. Oui.
Alors, je vais répondre en deux temps. Pour les membres de la FEDIL, à quelques exceptions près, les secteurs de l'événementiel, du transport aérien, si on tient compte de ces exceptions, finalement, les entreprises luxembourgeoises auront assez bien traversé la crise sans trop de difficultés. Une des raisons principales, c'est qu'il n'y a jamais eu d'arrêt total de l'industrie. La FEDIL a plaidé auprès du gouvernement en disant « s'il vous plaît, laissez-nous continuer, mettons-nous ensemble pour voir quelles sont les règles qu'on doit appliquer ». Au début du Covid, on ne savait pas du tout ce que c'était. Donc on a vraiment bien travaillé avec le gouvernement et comme l'entreprise n'a pas arrêté, elle n'a pas dû redémarrer, il n'y a pas eu de coup de redémarrage et donc elle a traversé la crise sans trop de difficultés. Mais pour vous parler de l'importance des relations avec la France, quand le président Macron a déclaré à un moment donné « nous sommes en guerre », eh bien le lendemain, dans certaines entreprises luxembourgeoises, il y avait jusqu'à 30% d'absentéisme. Parce que les gens avaient très peur. Et ils étaient vraiment, c'était ou des Français
suite
ou des francophones.
Suite d'Emmanuel Macron. Donc il y a vraiment une incidence sur la masse salariale luxembourgeoise.
Exactement. Et je ne remets pas du tout en cause la justesse de ces propos. Simplement, je dis que les gens qui avaient écouté, et on écoute le journal télévisé français, on l'écoute aussi dans les régions francophones comme la Belgique. Et là, c'était vraiment... Les gens n'osaient plus venir travailler. Donc, il a fallu faire tout un effort de pédagogie en expliquant que la sécurité était assurée dans les entreprises. Donc, pour les entreprises, ça s'est pas trop mal passé, finalement, à l'exception des secteurs dont j'ai parlé. Et en ce qui concerne le travail proprement dit de la FEDIL, il était très compliqué parce que le travail de la FEDIL, c'est un peu comme le travail du MEDEF. C'est une bonne part de relations publiques, de lobbying, d'entretien avec les fonctionnaires, avec les ministres. Et on ne pouvait plus voir personne. Et le pouvoir de conviction, quoi qu'on en dise, est quand même moins fort à travers un écran que quand on est en face à face. Donc, ça a été compliqué. C'était... Mais en même temps, on s'est rendu compte de notre utilité parce qu'on a vraiment servi de courroie de transmission et on a donné beaucoup d'explications, courroie de transmission entre les informations et la volonté du gouvernement de prendre certaines mesures, qu'on a bien expliqué à nos membres. On avait des espèces de hotline et donc on a vu qu'on avait vraiment une raison d'être, même si ce n'était pas celle, en l'occurrence, qu'on voudrait avoir tout le temps. Et on a d'ailleurs acquis de nouveaux membres pendant cette pandémie, alors qu'on se disait, oh là là, ça va être plus compliqué, notre action va être moins visible. Donc non, on l'a bien traversé. Mais ça a été très, très pénible à titre personnel.
Bien sûr. Et est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que vous avez mis en place certaines choses durant les confinements, qui vont perdurer après? Je ne sais pas, par exemple, plus de télétravail ou de réunions par Zoom ou,
Alors, oui, on va, comme tout le monde, utiliser sûrement encore en partie les vidéoconférences qui ont leur utilité dans certains cas. Le télétravail est aussi un des développements. Il existait déjà un petit peu, mais très peu au Luxembourg. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense qu'il va quand même un peu se développer. Mais comme on a parlé du statut particulier des frontaliers, oui. En fait, il faut savoir que les pays voisins... Si les frontaliers ne se rendent pas au Luxembourg un certain nombre de jours, considèrent qu'ils doivent payer leurs impôts et leur sécurité sociale dans leur pays.
D'accord.
Donc, il y a eu des accords. Les gouvernements ont très bien réagi, à la fois le gouvernement français, allemand et belge, en disant, OK, pandémie, on neutralise tout ça.
Oui, on met de côté pour l'instant, on verra après.
Exactement. Mais il y a l'après. Donc, il y a une demande des travailleurs et parfois une demande des entreprises pour un jour de travail par semaine, voire deux. Dans l'état actuel de la législation, hors période Covid, on verra quand ça va se terminer, mais en tout cas pour l'année 2022, je suppose que les exceptions seront terminées. Ça ne sera pas possible parce que je crois que les Français autorisent 14 ou 17 jours, j'avoue que je ne sais plus très bien, et les Belges, c'est une vingtaine de jours.
Par an ?
Par an.
Ah oui, donc oui, forcément, donc, deux jours par semaine, ça, voilà. Ça fait un peu trop. D'accord, oui. Oui, donc ce sera, là, pour le coup, ce ne sera pas possible.
Voilà, ça ne sera en tout cas pas possible dans l'état actuel des accords intergouvernementaux.
Vous avez, alors on va parler juste un peu de votre parcours, vous avez été élue personnalité économique la plus influente du Luxembourg l'année dernière par le magazine Paper Jam. Vous étiez au courant,
oui,
j'imagine.
J'étais au courant après, ouais, voilà. Pas avant, mais après.
Oui, après, en tant que femme, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, le fait que je sois devenue la présidente de la FEDIL, je trouve que c'est une belle preuve d'ouverture de la part de ce petit pays qu'est le Luxembourg, parce que je suis une étrangère. Je ne parle pas la langue locale qui est le luxembourgeois, même si je comprends quand même une bonne partie. Et donc, ça veut dire que les patrons, les entreprises luxembourgeoises dans l'industrie n'ont pas hésité à confier la défense de leurs intérêts et à donner la place de porte-parole à quelqu'un qui n'est pas luxembourgeois, même si j'y vis, et quelqu'un qui ne parle pas leur langue.
Donc il y a une ouverture, une véritable ouverture.
Une véritable ouverture, tout à fait. Et c'est aussi dû à l'environnement international dans lequel le Luxembourg travaille. Le fait d'être la personnalité économique la plus influente, même si tout ça est toujours très relatif, j'ai trouvé que c'était une belle reconnaissance pour l'industrie, pour le travail de la FEDIL, et le fait d'être une femme... moi, ce que je dis toujours là-dedans, ce qui est important, c'est que ça montre aux autres femmes que, bah oui, c'est possible. Bah, bon, si elle l'a fait, pourquoi pas moi? Et c'est toujours ce que je veux qu'on retienne de choses que je fais souvent un peu par les hasards de la vie en étant la première quelque part. D'abord, je dis, je suis la première. Il ne faut surtout pas que je sois la dernière. Et ensuite, je veux que les femmes qui le voient se disent, bah, si elle y arrive, j'y arriverai aussi. Ce qu'on peut appeler le rôle modèle. Et... Maintenant, je commence à avoir quand même une certaine expérience. Il m'arrive de temps en temps de rencontrer des femmes qui me disent « Tiens, vous savez, il m'est arrivé ça, je ne pensais pas que j'allais y arriver, mais je vous ai entendu. » Et puis, oh, je me suis dit « Allez, si elle y arrive, je vais le faire aussi. » Ça, je trouve que c'est une belle récompense.
Vous aimez en fait être inspirante pour les femmes?
J'aime j'aime surtout être l'occasion de que les femmes franchissent le pas, parce que c'est souvent dans des métiers un peu plus masculins, c'est souvent mais non, je vais pas y arriver, mais non, moi je ne suis pas capable, mais et comment je vais faire si, oh là là, si j'accepte ça et que ça ne va pas. Et je leur dis mais allez-y, et je pense qu'il ne suffit pas de dire allez-y, il faut montrer aussi que c'est possible.
Comment vous avez été attirée par le monde de l'entreprise, en fait?
En fait, c'est depuis toujours. Quand j'étais jeune, je savais qu'un jour, j'aurais une entreprise à moi, parce que c'est le côté liberté, le côté je fais ce que je veux et je n'ai qu'à rendre des comptes à moi-même. Ça aussi, l'inconvénient, évidemment, que quand on fait une bêtise et qu'on se retourne, on dit, mais il est con, mon patron, ah ben non, c'est moi. Donc, on n'a plus
c'est
personne.
C'est moi le patron.
Exactement. On n'a plus personne à qui on peut dire, oh là là, j'obéis, mais qu'est-ce qu'il est nul, celui-là. Donc, voilà. C'est la responsabilité, mais c'est aussi la liberté. Et c'est la liberté d'organiser un peu son entreprise comme on le veut. C'est la liberté de faire des choses un peu moins classiques qu'on le ferait d'habitude. Par exemple, le télétravail, mais à l'intérieur du pays, puisque je vous ai parlé des problèmes de fiscalité, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis longtemps. On a loué des bureaux un peu décentralisés pour permettre aux gens de ne pas passer trop de temps dans leur voiture.
Oui.
On a donné depuis longtemps des possibilités aux gens de travailler avec des horaires flexibles. Et tout ça, c'est pas évident. Je suis sûre que si j'avais été directeur d'une entreprise qui ne m'appartient pas, j'aurais pas pu le faire. Mais là, voilà, on peut le faire.
Vous prenez la responsabilité,
voilà,
en fait.
Tout à fait. Avec les conséquences aussi.
Vous aimez être libre?
Voilà, tout à fait.
Est-ce que vous avez du mal avec l'autorité?
Oui et non. Donc pas moi. Non, ça me dérange. D'abord, j'ai un grand respect pour l'autorité, même quand elle s'applique à moi. Mais il faut que l'autorité soit juste, cohérente, juste et expliquée. Voilà, je ne peux pas obéir parce qu'il faut obéir. Oui, en situation de crise, on n'a pas le choix. Moi, quand la Covid est arrivée, on doit se tenir à 2 mètres.
Il faut qu'il y ait une raison, en fait. Vous devez savoir pourquoi.
Exactement. Et oui, je dois être un peu nouvelle génération pour ça. Non
peut-être un petit côté rebelle. Non, je rigole. Non. Et alors, est-ce qu'il y a des quotas au Luxembourg, comme en France, vous savez,
oui.
On en parle beaucoup en ce moment.
Alors,
est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est on en parle au Luxembourg?
On en parle beaucoup au Luxembourg. On en parle dans les conseils d'administration. On en parle dans les fonctions publiques. Et moi, qui suis de nouveau, sans doute à cause d'un grand amour de la liberté, opposé à de nouvelles règles qui s'occupent encore de gérer, qui s'imposent, qui s'occupent encore de gérer l'intérieur des entreprises, je dis qu'en fait, c'est pas tellement dans les conseils d'administration qu'il faut mettre les femmes, mais c'est vraiment dans la direction opérationnelle, parce que c'est là que ça se passe. Et pour ça, c'est vraiment tout un parcours qu'il faut préparer et pour lequel il faut accompagner les femmes, parce que pour des raisons que je n'arrive pas toujours à comprendre, mais que je vis au quotidien, les femmes veulent bien, mais c'est pas tellement sûr que ça. Je peux vous donner un exemple récent. On voulait proposer à quelqu'un qui pouvait tout à fait le faire devenir commercial à l'export avec des responsabilités et tout. C'est une femme. Oui, je veux bien. Oui, ok. Mais il faut que je loge chez moi tous les soirs. Ben non, ma fille, ça n'existe pas, ça. Si tu es commercial à l'export, tu vas devoir passer 3 jours en France.
Ouais.
Et voilà. Et on a tout le temps, pas tout le temps, mais très souvent, ce genre de petites réticences qui font que les femmes n'ont pas...
En fait, au foyer, en fait.
Alors,
leur rôle
foyer,
de maman, peut-être.
Oui, sans doute.
De femme.
Oui.
D'épouse.
Oui, peut-être, encore que dans le cas auquel je pense, je pense que ça aurait pu se faire, mais je pense aussi, c'est parce qu'on... je pense que c'est depuis tout petit. On n'apprend pas vraiment aux femmes à être indépendantes. Peut-être que ça va mieux maintenant, mais je ne suis pas sûre. Je trouve qu'on rencontre encore les mêmes raisonnements que quand
une femme doit être
ans.
À la maison le soir, en fait. C'est culturel un peu.
Oui, ou elle se sent obligée
ouais.
d'y être. Ou,
elle serait une mauvaise épouse ou une mauvaise mère si elle ne l'était pas, par exemple.
Oui, ou alors parce qu'elle se dit, mais il n'y a que moi qui peux faire ce que je fais à la maison.
Peut-être qu'elle n'a pas confiance.
Oui, à tort, sans doute. Hein, mais ça, parfois. Mais,
et ça, du coup, ça pose problème pour les carrières,
pose,
la carrière des femmes.
Ça pose problème pour les carrières des femmes. Et donc, il faut bien accompagner. Il faut aussi, moi, ce que j'essaie de faire, en tout cas chez nous, s'est dit, bon, on va essayer, pas dans le cas de celle qui ne veut pas déloger, parce qu'elle ne va pas essayer, mais il dit, mais non, tu essayes, tu vas le faire pendant, oh, allez, on va se donner 3 mois. Si avant les 3 mois, tu considères que ça ne va pas, bah, tu peux arrêter toi, mais nous, on va se donner 3 mois, on fera le point régulièrement, et au bout des 3 mois, si tu veux retrouver ton job d'avant, tu le retrouveras. Mais, et il faut donner de la confiance.
Ah oui, vous leur donner envie d'essayer, en fait.
Voilà, tout à fait.
Et ça marche souvent.
Et ça marche souvent, ça ne marche pas toujours, mais ça marche souvent. Mais c'est un long parcours, et moi, je comprends bien que tout le monde n'ait pas envie de faire cette démarche-là, parce que c'est peut-être plus facile de dire, bah oui, voilà un garçon, il en a envie, on y va et on n'en parle plus. Mais je pense que pour avoir vraiment des entreprises qui marchent bien, il faut une diversité à la fois de genre, mais aussi, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure aussi, à la fois avec des cultures différentes.
Bien sûr, oui. L'ouverture, bah, c'est le Luxembourg, c'est ça en fait.
Tout à fait.
C'est l'exemple même de l'ouverture et de la différence.
Oui. Et de la cohabitation d'énormément de nationalités.
Et tout se passe très bien.
Et tout se passe très bien. Aussi, ne l'oublions pas, parce qu'il y a de l'argent dans les caisses de l'État et que bon, les
ça
gens
aide.
Qui ont... Voilà, ça aide, parce que les gens qui en ont besoin sont vraiment bien aidés. Donc, il n'y a pas de misère financière. Il y a... Oui. Vous aurez tout le temps quelqu'un, si vous lisez les journaux, qui vont vous dire, oui, mais il y a des tas de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais forcément, puisque le seuil de pauvreté est calculé...
Est très élevé.
Voilà, tout à fait. Donc,
ouais.
Voilà, comme on dit toujours, il suffirait d'enlever 10 salaires de patron de banque de la référence pour le calcul, et on arriverait à résoudre ce problème-là qui est dans ce cas-là purement statistique. Mais on n'a pas, heureusement, de vraies misères financières au Luxembourg, et c'est tant mieux.
Très bien, bien. Merci infiniment pour cette interview, Michel De Taille. Je rappelle que vous êtes présidente de la FEDIL, la Fédération des industriels luxembourgeois, et une femme aussi très inspirante pour d'autres femmes. Merci beaucoup.
Merci à vous.
La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.